Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, Sophie accueille des musiciennes de la scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
Responsable corde vocale et Kodak jetable chez l'Impératrice, c'est ainsi que Flore se présente sur son Instagram. Flore Benguigui, c'est plus que ça pourtant. On rajoute une voix de rêve, un charisme énergisant, une écriture précise et une personnalité qui fait que les garçons de l'Impératrice ne seraient pas tout à fait ce qu'ils sont sans elle. Leur prochain album s'appelle Takotsubo. Et je suis très contente de te retrouver, Flore. On ne s'était pas parlé depuis le premier album de l'Impératrice. Ma première question va porter sur ce premier single qui est sorti il y a peu, qui s'appelle Peur des filles. Pourquoi ?
Peur des filles, c'est un morceau, c'est le morceau le plus politique et en même temps le plus second degré et ironique que j'ai jamais écrit. Et c'est vrai que c'était un peu un pari, au sens où comme on est un groupe qui avons toujours fait des morceaux très... En général, c'est plutôt vaporeux, les paroles de l'Impératrice. En tout cas, le premier album qui remonte en quelques années déjà, mais tous les textes, c'est des textes qui veulent pas dire grand-chose, c'est très poétique, très onirique. Et c'est vrai qu'avec Takotsubo, j'ai vraiment essayé d'écrire des textes qui parlent plus de moi, qui parlent plus voilà, de l'intime, de choses qui me sont arrivées, ou pas forcément, mais des choses qui me touchent en tout cas. Et Peur des filles, voilà, c'était mon petit quart d'heure féminazi. En fait, j'ai voulu parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye de défendre du mieux que je peux. Et c'est quelque chose qui avait jamais fait irruption vraiment dans ma musique, dans l'Impératrice en tout cas. Et là, du coup, j'ai choisi un peu l'angle de l'ironie pour en parler et pour me moquer clairement des clichés qu'on pose sur les féministes, malheureusement encore aujourd'hui.
Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu as pris la parole à la télévision pour dénoncer le sexisme de l'industrie musicale. Tu parlais du harcèlement et des micro-agressions assez sordides que tu as subies à tes débuts, avant d'être dans l'Impératrice, hein, je le précise. Ils sont tous très gentils dans l'Impératrice. Oui. Donc, avant ce groupe, comment tu l'as vécu à l'époque? Comment tu as fait pour continuer à avoir foi en ton potentiel d'artiste, de chanteuse, sachant que tu étais face à des musiciens qui ne voulaient même pas que tu écrives? Donc, comment tu as fait pour garder la barre?
J'ai quasiment lâché la barre, pour être honnête. Et en plus, ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce que énormément de femmes dans ce milieu ont vécu ou vivent encore aujourd'hui. Mais oui, moi, pour le coup, comme j'étais en plus à mes débuts, j'étais jeune et j'étais complètement inexpérimentée et très peu sûre de moi, j'ai clairement, le moment où j'ai rencontré Charles de l'Impératrice, un peu par hasard, à un concert, on était au mois de mai et l'idée, à la base, c'était qu'en septembre, je reprenais les études, je retournais à la fac. Voilà, je faisais des études de lettres, probablement. Enfin, c'est ce que j'avais fait à l'origine. Donc, c'était un peu mon dernier espoir. Et même encore à cette époque-là, c'était même pas un espoir. J'espérais même pas travailler avec l'Impératrice. Mais oui, non, clairement, j'avais plutôt abandonné l'idée parce que je me sentais pas assez forte. Je me sentais pas assez déterminée et surtout assez confiante. J'avais pas du tout confiance en mes capacités. Et puis, à cette époque-là, en plus, je faisais du jazz. Du coup, je composais pas.
Et Takotsubo, donc, on va dire pour résumer, hein, parce qu'il y a toute quasiment une mythologie linguistique autour de ce terme. On va parler de cœur brisé en japonais. Ton cœur qui est brisé, pourquoi ce choix de titre d'album?
C'était un mot qui, à la base, était lié à un des morceaux de l'album qu'on a sorti en décembre qui s'appelle Anomalie Bleue, qui est un morceau qui parle d'une rencontre amoureuse comme un espèce d'arrêt dans le temps et donc du cœur qui bat plus qu'un battement sur deux. Et en fait, c'est quelque chose qui nous est apparu comme évident pour résumer tout l'album parce que finalement, c'est un album qui parle beaucoup de la marginalité, du fait d'être en rupture par rapport au monde et par rapport à la continuité des choses. Et du coup, le syndrome du Takotsubo, du cœur brisé, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui rompt d'un seul coup dans une continuité, dans une norme. Et donc, ça peut être le cœur brisé de façon très littérale parce que, bon, l'histoire a fait que j'ai eu le cœur brisé aussi l'année dernière. Donc, ça a très bien résumé certaines choses. Et donc, il y a des morceaux qui parlent de ça, qui parlent du droit à être triste aussi, de cette volonté de parfois de tout lâcher et de s'abandonner à la tristesse. Et il y a des morceaux qui parle de rupture plutôt dans la normalité, mais de façon plus imagée. Bah, par exemple, Peur des filles, c'est aussi ce truc de le mythe de l'hystérique féministe. Et t'as des morceaux comme dans ceux qu'on a sortis, comme Fou, par exemple, qui est un morceau qui invite les gens à devenir un peu tarés, quoi. Parce que parfois, ça fait du bien. Voilà, et Le cœur brisé, c'était plus une idée pour un peu lier tout, parce que tout se raccroche un peu à ça. C'est pas que des morceaux d'amour triste.
L'Impératrice est aussi un groupe de la performance. C'est-à-dire que sur scène, ça chante, ça danse, ça groove. C'est vraiment quelque chose qui compte énormément dans et l'esthétique sonore et l'esthétique visuelle du groupe. Toi, comment t'as vécu justement venant du jazz? Est-ce que ça a été si évident que ça? Parce que je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois il y a quelques années pour le premier album, tu me disais que c'était Renaud Letang qui t'avait aidé à rendre ton chant plus spontané. Toi qui es assez perfectionniste. Donc quand on est une perfectionniste comme toi, comment on apprend à se lâcher sur scène? Ça vient d'un coup, d'un seul?
Oh non, non. Non, c'est des années de travail, peut-être sur soi aussi, et je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'énergie de groupe, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être avec des garçons qui sont très bienveillants avec moi et qui, et puis on a vraiment appris à se connaître au fur et à mesure des tournées, donc maintenant on a un socle très solide sur scène et on a beaucoup de bienveillance entre nous et beaucoup d'amitié, d'amour, et du coup on est tous vraiment liés, les six, et donc, sur scène, j'ai pas l'impression d'être toute seule face à tous ces gens et de parce que ça j'étais très démunie au début, effectivement. Dans le jazz, on me demandait jamais de danser et on me critiquait pas là-dessus, parce que c'est vrai que au début de l'Impératrice, c'était très fréquent les remarques de type la chanteuse de l'Impératrice, elle danse pas assez, elle bouge pas assez de façon assez sensuelle. On m'a beaucoup critiqué là-dessus sur voilà ma sensualité qui était pas assez débridée sur scène, disons, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu et qui m'a au début, plus on me faisait ce genre de remarques, plus ça me tétanisait en plus, parce que je me sentais regardée, je me sentais analysée sur scène, alors que moi, j'étais surtout là pour chanter, en fait. Et on m'a demandé aussi beaucoup de me construire un personnage, parce que ça allait m'aider, de me cacher derrière un personnage. Et en fait, finalement, c'est pas du tout qui m'a aidée, parce que ce que j'avais juste besoin, c'est d'être en confiance là où j'étais, avec les gens avec qui je travaille, et les gens aussi, forcément, dans la salle. Et c'est de là qu'est venue une... Alors, je sais pas si je pourrais dire aujourd'hui... très à l'aise sur scène, parce que je pense que c'est pas vrai, mais il y a toujours ce truc de trac et de stress. Mais oui, aujourd'hui, au fil des années, j'ai vraiment appris à prendre ma place dans ce groupe et donc sur scène, quoi.
Il y a quelques années, Kim Gordon, l'ex-bassiste de Sonic Youth, sortait ses mémoires, qui sont assez cruelles, assez drôles. On y apprend beaucoup de choses. Et elle les a appelées Girl in a Band, parce que quasiment toutes les interviews qu'elle a donné le temps de Sonic Youth, on lui posait cette question: qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un groupe de mecs? Est-ce que toi aussi, tu y as droit?
Ah mais tout le temps. C'est une question qu'on me pose. Une interview sur deux, il y a cette question. Enfin, c'est incroyable. Et en plus, je pense parce que j'ai peut-être aussi un statut un petit peu peu commun, finalement, d'être la seule fille du groupe et de ne pas être le leader du groupe. Parce que souvent, la chanteuse, c'est le leader du groupe. Et souvent... la fille dans le groupe, c'est la chanteuse. Donc, en général, la seule fille du groupe, c'est le leader. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout le cas. Je suis pas... donc, il y a un leader dans l'Impératrice, qui est Charles, qui a fondé le groupe en 2012. Moi, je suis arrivée donc après. Et c'est vrai que pour les journalistes, je pense qu'ils comprennent pas. Ils se disent, mais c'est bizarre, comment ça se fait que c'est pas elle? Et du coup, en interview, d'ailleurs, je suis rarement toute seule. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que c'est l'idée du podcast. Mais c'est vrai qu'en général, on est plusieurs. Je suis avec Charles, on est à deux. Après, comme c'est moi qui écris les textes et les mélodies, c'est sûr que j'ai une place importante dans la création. Mais oui, cette question, elle revient souvent. Et en plus, j'ai pas vraiment de... enfin, la réponse, je pense, manque clairement d'intérêt. On s'en fiche de savoir ce que ça fait d'être la seule fille dans un groupe. Oui, je porte pas les flights les plus lourds quand on part en tournée. C'est peut-être ça le seul truc qui change avec mon statut de femme. Mais finalement, je suis un musicien comme les autres.
Tu as choisi de lire un texte pour nous de Daphné B., qui est canadienne, qui est une poétesse, hein, qui a fondé une plateforme féministe qui s'appelle Fémicile. Et bah, j'aimerais bien que tu nous le lises.
Si le désir sexuel des femmes est criminel, leur désir de plaire semble doublement compromettant. Avant de s'adresser à l'autre, la coquetterie nous vise pourtant nous-mêmes. Quand je me maquille, c'est à moi que je veux d'abord plaire. Je me séduis, je prends la mesure de mon être. Une femme qui s'aime, même l'espace de 5 minutes dans le miroir d'un bar, c'est une femme qui se tient dans son pouvoir, qui n'a pas besoin du regard de l'autre pour exister. Elle fait peur, cette femme-là. On voudrait nous faire croire que le désir de plaire relève de la vanité pure, qu'il est frivole. Pire, il dénoterait une défaillance, un genre de trou. La vanité, comme son homologue latin vanitas, c'est ce qui fait dire des choses creuses, sans importance. Comme le vrai vide, on pense que les coquettes aspirent tout sur leur passage. Il faut se méfier d'elles et surtout craindre leur surface. Car si elles séduisent, ces femmes qui s'aiment, elles peuvent détruire, à la manière des trous noirs. Devant la peur qu'elles nous inspirent, on essaie de les dénigrer, de les dégrader. On dit qu'au-delà de leur corps, cette coquille vide, il n'y aurait rien d'autre que le néant, l'espace intersidéral. La supériorité du dedans sur le dehors n'est rien d'autre qu'une idéologie patriarcale, une énième itération d'une fausse dichotomie, celle du corps et de l'esprit. Le corps, externe et profane, serait la cabane vulgaire de l'esprit, intellectuel et pur. Et si notre vérité pénétrait par les pores de notre peau et tout à la fois en exudait? Et si notre profondeur courait à notre surface? Qu'elle était poilue, poquée, meurtrie? Qu'elle prenait parfois la forme de cette peau fardée de prisonnière survivante, cette ingéniosité emplâtrée, ce petit bout de vie transitoire, ces joues qui, comme des lucioles dans la nuit, rougissent, même lorsqu'elles sont condamnées à moisir dans une cellule à perpétuité jusqu'à la mort? Et si la profondeur était plutôt un rapport à soi, un désir de revenir vers soi? Et si se rencontrer n'était pas une affaire de dedans ni de dehors, mais bien de plénitude, ce moment total, indivisible, où l'enveloppe et l'enveloppé ne font qu'une et s'enlacent en se disant « ça va aller ».
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'est intéressant ce texte, car il y a un rapport très fort entre le corps, le mental. Pourquoi tu l'as choisi?
J'ai eu un vrai choc quand j'ai lu cet essai, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, surtout dans la littérature féministe. Et pourtant, voilà, des femmes qui se maquillent, des femmes qui prennent soin de leur corps, il y en a beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on lit beaucoup à ce stéréotype du superficiel et de la fausseté et de la triche. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de replacer ça dans un contexte d'empowerment, en fait, et de volonté de se plaire à soi d'abord. Et qu'en fait, c'est par là que passe une certaine prise de pouvoir. Et si ça passe par l'utilisation de maquillage ou de vêtements particuliers, voilà, d'envie de se sentir puissante et belle, et ben, voilà, il faut le faire, il faut l'assumer et il faut y aller. C'est peut-être très, très simple et très bête, mais j'avais jamais réalisé ça, vraiment. Et en plus, cette jeune fille, Daphné B., je trouve qu'elle a une écriture hyper, hyper poétique et c'est hyper beau, sa façon de protester. Et voilà, c'est ce qui m'a plu. Mais vraiment, tout le recueil est magnifique et il y a plein d'anecdotes assez incroyables.
En parlant de Daphné, je pense à Daphné Oram, je pense à Wendy Carlos, je pense à Eliane Radigue, toutes ces pionnières de l'électro. J'y pense parce que sur le premier épisode de ton propre podcast, parce que tu viens d'en lancer un, qui s'appelle « Chercher la femme », tu racontes l'histoire des synthétiseurs et de ces musiciennes parfois oubliées qui ont su l'utiliser à leur gré. Comment t'es venue l'idée de raconter ces femmes-là?
C'était juste parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, en fait, que je cherchais beaucoup de podcasts sur des femmes musiciennes, parce que forcément, c'est un sujet qui, en tant que femme musicienne, qui m'intéresse, c'est peut-être un peu égocentrique, mais je cherchais et je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses quand même. Et j'avais toujours besoin de plus. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu mon rêve depuis toute petite de faire un podcast. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le tenter? Et Tsugi Radio, ils m'ont dit, propose-nous un format et vas-y, ta carte blanche. Donc, je me suis lancée à tâtons parce que j'avais jamais fait ça. Donc, heureusement, je maîtrise les logiciels de son en tant que chanteuse, mais. Et puis, j'ai pu faire mon petit générique moi-même. Ça, c'était un peu mon kiff. Mais j'ai choisi, du coup, de commencer par les femmes et les synthétiseurs, parce que les synthétiseurs, c'est un sujet qui, forcément, dans l'impératrice, est très présent et qui, voilà, qui me touche beaucoup. Et j'adore, voilà, apprendre là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'il y a un instrument un peu par épisode. Donc, le prochain épisode sera sur les femmes bassistes, dont tu parlais un peu, du coup, tout à l'heure, avec Sonic Youth. Et l'idée, c'est à chaque fois de parler de femmes dont on a un peu oublié l'existence ou dont on a oublié l'importance, surtout, parce que certaines de ces femmes ont eu un rôle déterminant dans l'histoire de la musique. Et donc, le premier épisode, voilà, j'ai parlé des femmes au synthé. Donc, j'ai parlé de Clara Rockmore, donc, qui est une grande joueuse de thérémine, et Wendy Carlos et Annette Peacock. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y en a tellement, en plus, des femmes pionnières de la musique électronique. Il y en a des tonnes et c'est vrai que ça a été vraiment hyper dur de choisir.
En parlant de camarades artistes, Il n'y a pas si longtemps, je te voyais échanger lors d'une émission organisée par Catastrophe avec l'autrice et donc membre du groupe Catastrophe, Blandine Raquel. Et vous parliez de ce fameux « à poil » lancé aux chanteuses pendant les concerts. Donc, j'ai donc réalisé que c'était encore le cas. C'était quand même d'une vulgarité assez crasse. Quelle est ton arme secrète face au « à poil » ? Tu ne dis rien, tu passes outre, tu envoies une pique.
Mais c'est justement ce que je disais dans l'émission avec Catastrophe, c'est que une fois j'avais réussi à répondre et le pire c'est que je me rappelle pas ce que je lui avais dit, mais je lui avais lancé une pique, ça l'avait calmé. Mais non, en général, de toute façon, on sait très bien que on dit rien. On n'a pas envie de créer une cohue dans le public. On n'est pas là pour ça et enfin, on n'est pas là pour avoir un échange agressif avec les gens. On n'a pas envie. Donc bon, en général, on dit rien. Mais c'est vrai que moi, je m'étais jamais vraiment rendu compte de la violence du truc. C'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois en concert. En général, ça me fait pas plaisir, mais je réalisais pas vraiment la violence de cette, j'allais dire injonction, mais je sais même pas si on peut dire ça. Mais enfin, je réalisais pas la violence. Et c'est vrai que Blandine, par exemple, je me suis aperçue quand on a fait l'interview qu'elle était très, très touchée par ça, que elle, ça l'avait vraiment marquée. Et rien que ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience aussi, voilà, on n'y accorde pas assez d'importance à ce genre de choses. C'est un détail, peut-être, dans un concert. Finalement, il se passe beaucoup de choses sur scène, et puis on a beaucoup de trucs à gérer. On a souvent, moi aussi, j'ai mes retours avec ce qu'on appelle des ears, donc c'est quelque chose qui te coupe un peu le son de la scène. Et donc parfois, il y a des choses que j'entends pas aussi, ou j'entends pas bien venant du public, donc je préfère pas m'étendre là-dessus. Mais non, c'est important de prendre conscience de ces choses-là et d'arrêter de laisser passer ce genre de trucs. En fait, ça devrait même plus exister, des mecs qui disent à poil, en parlant d'une chanteuse qui est sur scène. Et justement, oui, Blandine parlait de la réaction de Jennifer, apparemment, qui avait...
Avec un short, oui, sur scène.
C'est ça, pendant un festival, ouais.
Oui, elle lui a dit « tu sors », il me semble. Et en plus, avec ta femme, quelque chose comme ça, elle était très remontée, Jennifer.
Et c'est... Ouais, c'est bien, mine de rien. C'est une femme qui a du métier, donc voilà, qui sait ce qu'elle fait et qui... C'est important qu'elle réagisse.
Puis après, il y avait les L7, hein, ce groupe de rock des années 90 qui balançait des tampons usagés sur ceux qui osaient un peu trop. C'est aussi notre manière.
Il faut avoir sa petite réserve sur scène. Après, c'est toujours un peu... Mais oui, je peux en parler à mon tour manager.
Et j'ai remarqué que les Michel occupaient une place assez importante dans ta vie.
Oui.
Il y a une reprise de Michel Berger sur le nouvel album de l'Impératrice. Tu as repris Michel Legrand. Une chanson à tomber des Demoiselles de Rochefort. Et avec qui tu as grandi musicalement?
Bah, du coup, ça va pas être Michel, mais j'ai grandi avec les Beatles en majeure partie. J'étais très monomaniaque. En plus, j'ai vraiment écouté que ça pendant des années. J'étais très, 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 très fan. Je suis toujours. Hein. Du jazz aussi beaucoup. J'ai commencé à faire du jazz assez jeune. Assez jeune. J'avais à peu près 15 ans et j'ai commencé à vraiment chanter du jazz et je me suis intéressée à mort à cette musique-là et surtout au vieux jazz vraiment entre les années 30 et les années 60. Et donc ça, ça a été vraiment mon truc pendant des années. Je me destinais à ça aussi. Enfin, je voulais être chanteuse de jazz et chanter, voilà, faire que ça. Le destin en a décidé autrement. Mais c'est surtout avec ça que j'ai grandi, je pense. Et avec, évidemment, aussi beaucoup de chansons françaises du côté de mes parents. Donc Gainsbourg, Brassens... Bachung, donc tout ça c'est pas des Michel, mais mes préférés c'est vrai que c'était les Michel. Enfin Michel Legrand, j'ai eu aussi le choc des Demoiselles de Rochefort évidemment quand j'étais gamine et ça m'a poursuivi toute ma vie quoi.
Et pour revenir sur le sexisme et sur la prise de parole que tu as sur ce sujet, la dénonciation aussi que tu veux incarner, l'engagement que tu as, il y a cette phrase de Gloria Steinem que je partage avec toutes mes invitées qui est « la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage ». Elle te parle comment, cette phrase?
Bah, je pense qu'elle résonne vachement avec ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe encore aujourd'hui. Je trouve que en 2020, le fait d'avoir été un peu à l'arrêt comme ça d'un seul coup, il y a eu un vrai moment de pause et de bilan. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Tout le monde s'est un peu arrêté et a dit « Ok, on en est où là de la vie ?» Et on s'est rendu compte de l'énorme retard qu'on avait sur plein de choses et surtout, enfin, toutes ces choses terribles qui se passaient encore et que ce soit pour le sexisme et évidemment pour le racisme. Enfin, il y a plein de domaines qui ont été touchés par ça. Et du coup, ça a créé une prise de conscience assez violente et donc forcément de la rage. Et je pense que cette rage, elle est, heureusement ou malheureusement, j'arrive même pas vraiment à me prononcer sur la question, mais elle est nécessaire parce que c'est de là que découlent après des vrais actes forts et des vraies paroles fortes. Et il y a eu beaucoup de rage en 2020, mais qui a débouché sur des vrais tournants, parce qu'auparavant, il se passait plus grand-chose. J'ai l'impression que la vague MeToo, c'était quand même vachement épuisé. Et là, ça a redémarré. Et moi, j'ai essayé de prendre part avec mes petites mains et mon petit statut de responsable corde vocale, comme tu disais, et de donner ma parole, de ce que je pouvais. Parce qu'effectivement, comme je le disais, moi, j'ai pas une expérience, j'ai mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut et qui, je pense, est loin de, malheureusement, de la réalité que vivent beaucoup de femmes. Mais j'avais pas envie de rester sans rien dire, sans rien faire. Donc voilà, j'essaye de m'engager le plus possible et de porter la voix de femmes qui ne seraient pas écoutées, en tout cas à mon humble niveau, quoi.
Mais on peut être engagé en ayant les cheveux bleus, un eyeliner assorti à son masque et aussi assorti à son pull. Et il y a plein de féminité et plein de féminisme différents. Je crois que ça compte beaucoup pour toi.
Oui, et du coup, ça fait écho vachement à ce livre Maquillée dont je parlais tout à l'heure. Toutes les féminités sont belles et elles sont fortes. Donc c'est ça, c'est la force de la féminité dont il faut parler.
Merci beaucoup, Flore.
Merci.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.